Ok.
Alors, est-ce que tu peux présenter donc le groupe Death Decline à nos lecteurs, ouais?
Oui, alors, Death Decline s'est formé au cours de l'année 2009. Donc, les choses sérieuses ont commencé un peu plus tard, en 2011, avec les premiers concerts et enregistrement d'une première démo. Donc, en 2012, Blue Sun Redemption. Suite à ça, donc, on a commencé à prendre un peu conscience du projet, à faire évoluer à maturité le groupe, pour enregistrer en 2015 notre premier album, Will for Sin. Et nous voilà maintenant avec notre deuxième album, Susan Faces of Lies, qui vient de sortir.
D'accord. Toi, t'es arrivé dans le groupe à quel moment ?
Je suis arrivé dans les débuts du groupe début 2011.
D'accord, donc t'as suivi le même parcours, ouais.
C'est ça, ouais. Je fais partie, je suis le seul membre à l'heure actuelle qui était présent dans les débuts du groupe, le premier line-up.
Ouais, parce que dans la bio, on parle d'un certain Manu, mais je le vois plus dans le line-up.
Manu a quitté le groupe il y a quelques années, avant l'enregistrement du premier album Before Sin. Donc,
d'accord.
C'est Mario qui a participé à l'enregistrement de cet album. Si je dis pas de conneries, Manu est parti fin 2014.
Ok. Tu peux nous présenter ton parcours avant Death Decline?
Moi personnellement, j'ai une expérience de groupe avec un groupe qui s'appelle Equator. Donc on a fait une paire de dates, on a enregistré une petite démo, on a fait un peu notre petit parcours. Ça m'a donné l'expérience moi pour après envisager autre chose, continuer sur la voie. Et quand j'ai intégré Death Decline, j'ai pu utiliser ça pour évoluer, pour apporter mon expérience à ce niveau-là.
D'accord, et aussi toujours pour un peu mieux te connaître, t'as des références dans le milieu, enfin voilà, t'es sans être des modèles ou voilà, mais il y a des personnages clés qui ont aussi défini ton travail ou qui façon d'une autre.
Des influences personnelles.
Ouais, par exemple.
Des groupes. Artistes, guitaristes,
voilà.
qui
ouais.
m'ont influencé. Oui, bah, écoute, comme tout le monde, oui, je pense que de toute façon, on n'en vient pas à faire un groupe de métal ou je ne sais quoi comme ça sans réelle raison. Donc oui, après, les influences qu'on peut avoir dans le groupe sont variées, sont pas forcément les mêmes entre chaque membre. On écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, on est des gros consommateurs. Et du coup, moi, d'un point de vue personnel, je pourrais citer toute la scène trash de la Béaréa, les groupes bon, comme bien sûr Metal Hush, à leur début, Exodus, Testament, Forbidden, les mastodontes du heavy et du metal en général, les Judas Priest, Motorhead, Iron Maiden, bien sûr ça fait partie de nos influences. On a aussi des influences plus extrêmes, ce qui transparaît parfaitement dans le son du groupe. On fait notre son tel qu'on l'entend, avec ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, simplement.
D'accord. Finalement, comme tu as connu cette période, si on revient à toute la période, donc Build for Sin, le premier album sorti en 2015, est-ce qu'il y a, je sais pas, un événement, un concert, un événement particulier qui pour toi synthétise cette période-là?
Cette période, je dirais déjà le studio, l'enregistrement de cet album au sens propre, a été vraiment un catalyseur. C'est notre première expérience de studio professionnel. Donc il y a déjà l'enregistrement lui-même de cet album a vraiment apporté beaucoup, malgré ses erreurs, les erreurs qu'on a pu commettre à cette époque, tout ça.
Vous aviez enregistré à Lyon, non? C'est pas ça?
C'est ça,
c'est
à
ça,
Lyon,
ouais.
ou Armadio avec Fabrice Bois.
D'accord.
Donc qui nous a bien drivé à l'époque, qui nous a bien aidé, qui nous a bien logé, qui a fait encore une fois un très bon travail. Oui, c'est vraiment c'est un point de départ d'un nouvel Zyphène à ce moment-là. Quoi.
Et justement, si c'est là aussi c'est un mec qui, enfin moi j'ai jamais foutu les pieds, je sais pas comment ça se passe, mais qu'est-ce qui t'a peut-être surpris, étonné ou à quoi tu t'attendais pas à un moment de rentrer en studio? je sais pas, il y a des choses que tu imaginais qui sont passées différemment ou des difficultés que tu n'avais pas anticipées sur le studio lui-même?
Bah, en fait, si tu veux, dans le CCS, quand tu débarques dans un studio pour enregistrement d'un album pour une première fois, il y a forcément des choses que tu ne sais pas faire ou que tu ne sais pas comment ça va se passer. Faire face, ne serait-ce qu'au métronome, à la rigueur du métronome, alors que jusque-là, tu n'avais pas forcément à le faire. Je veux dire, enfin, on s'est servi de tout ça pour toutes les erreurs qu'on a fait sur cet album pour plus les reproduire après. Et sans Bill Forsyth, on n'aurait pas sorti son Paces of Lies tel qu'il est à l'heure actuelle.
D'accord, donc ça a été plus un, enfin c'est peut-être un peu bizarre, mais peut-être un plaisir ou une douleur. Enfin, c'est un tigard en garde, un souvenir positif ou négatif?
De Bill Forsyth.
Et surtout de la partie en studio.
Positif, complètement positif. Je veux dire, par là, on apprend plus de toute façon, on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites. Donc, en partant de là, je dis absolument pas que cet album c'est une erreur ou qu'il n'y a que des erreurs dessus. Loin de là, on est plutôt fiers de ce premier essai. C'est complètement positif. C'est une bonne expérience qui nous a permis de progresser encore une fois. On a fait un pas de géant avec cet album, je pense.
D'accord, ok. Si on regarde un peu l'histoire du groupe, quasiment on a l'impression qu'il y a des cycles de 3 ans entre la démo, le premier album, deuxième album, enfin c'est grosso modo 2012, 2015, 2018.
Ouais.
C'est un hasard ou t'as l'impression que c'est un rythme naturel dans le groupe, 3 ans?
Bah, je pense que c'est un rythme correct pour un groupe en général, un groupe de métal. Le temps de tourner, de faire un max de concerts, de se produire le maximum, 3 ans, bon, en incluant le processus de composition du nouvel essai, je pense que c'est plutôt correct et en général, c'est un temps qui est plutôt référent dans la matière, je pense.
D'accord, ok. Justement, là aussi c'est peut-être cliché, mais j'ai l'impression que quand un groupe se dit on va attaquer le nouvel opus, on se réunit et puis on essaie de trouver quelle voie musicale ou quelle option on va prendre. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous? Et si c'est le cas, quelle base vous aviez posée sur le papier avant d'attaquer le disque?
Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça pour nous. En fait, si tu veux, on était conscient de ce qu'on avait fait jusque-là, on était conscient de ce qu'on voulait plus faire, de ce qu'on voulait améliorer. On a essayé de prendre ce qu'on aimait, enfin ce qu'on faisait, ce qu'on aimait faire, et de l'améliorer un peu plus. On s'est pas posé, on s'est dit ça marche pas, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, ce style-là, ça peut pas, c'est plus possible. Non, on fonctionne pas comme ça. On compose ensemble, on compose ce qu'on aime, on fait des albums qu'on aimerait écouter. Partant de ce point de vue-là, on n'a pas choisi une direction à l'avance. La direction arrive quand elle arrive, avec les compos qui arrivent, ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine cohérence et dans ce qu'on fait. Donc vraiment, on prend les choses comme elles viennent, tout en essayant d'être le plus cohérent et le meilleur possible.
D'accord. Finalement, dans le groupe, est-ce que pour la composition de nouveaux titres, vous avez mis en place il y a un processus naturel qui s'est mis en place? Comment on est un groupe, un morceau chez Death Decline?
En général, c'est Mario, le guitariste, ou moi-même, donc qui est la deuxième guitare, qui composons la majorité des morceaux pour ce qui est de la musique en elle-même. Donc après, comme je disais, c'est un travail d'équipe, c'est un travail de groupe, donc tout le monde a ses idées, tout le monde peut intervenir sur le morceau, proposer ses propres compos. On essaye vraiment de garder cet aspect de travail de groupe.
D'accord. Je sais pas, dans ton téléphone, là, il y a des riffs, il y a des montagnes de riffs, puis ton collègue, il fait pareil, l'autre guitariste, et puis il y a des moments où vous dites, vous essayez de construire quelque chose d'un peu plus un squelette, et puis vous proposez aux autres gars, et vous essayez de voir si ça accroche ou pas, ou...
Ouais, il y a de ça, c'est... on va chacun de notre côté aussi, de toute façon pour pas. J'ai envie de te dire que le cycle de 3 ans serait beaucoup plus long si on procédait pas de la sorte. On va chacun de notre côté, on compose chacun de notre côté, on réunit à un moment donné nos idées, on brode dessus les idées des autres, on tente des choses, je veux dire, par là. On n'a pas vraiment une méthode, on ne compose pas que d'une façon. Ça peut venir de n'importe quoi, ça peut venir de n'importe qui, et à tout moment on peut composer chez nous une chanson, amener en répète, la modifier complètement en répète, et finir sur un morceau enregistré sur un album peut-être sur ce Places of Lies.
D'accord, mais donc ça peut être aussi par, entre guillemets, à partir d'une base, par jam, sur des essais, à partir d'une base, chacun essaye, ouais. Et ça se construit petit à petit.
Ça nous arrive aussi, à partir d'un buff on répète, un bon riff qui ressort de ça, bam, on brode là-dessus, on reprend ça un peu chez nous, on a de nouvelles idées qui fourmillent, on ramène ça, et voilà, c'est comme ça qu'on procède en général de toute façon.
D'accord. Est-ce que sur le disque, là, tu te souviens quel premier titre vous avez finalisé ? Au premier titre est sorti des séquences de compo ?
Premier titre, si je dis pas de conneries, je pense que ce serait peut-être bien Use the Sacrifice.
D'accord. Et est-ce que, de part en... enfin, donc l'expérience que depuis donc quand même presque, enfin pas loin de 10 ans, ouais, est-ce que ce premier titre, une fois qu'il a été finalisé, il a coloré d'une façon ou d'une autre le reste de l'album ? Est-ce que ça a servi de base de dire, bah, il faut que les titres ils soient sur une famille commune, ou enfin...
Oui, je pense que carrément, il a peut-être, il a eu son incidence, je pense carrément, il a peut-être influencé d'une manière ou d'une autre le reste du processus de création, mais oui, il faut dire que cette chanson, c'était un peu le point de départ d'une nouvelle collaboration au niveau de la composition avec du coup Mario à la première guitare. Qui n'a pas vraiment composé sur le précédent album Build for Sin. Donc il est arrivé dans le groupe peu avant l'enregistrement de cet album, et là il a pu se lâcher, proposer ses idées, tout ça, et je pense que c'est aussi beaucoup ça qui fait la couleur différente, quelque peu différente de ce Places of Lies.
D'accord. En termes de calendrier, combien de temps vous avez dédié à chaque partie ? La compo, puis la mise en, tu vois, sur les différents éléments, combien, c'est en parlant semaine ou en mois, c'est quel temps tu t'estimes ça ?
Sur la composition pure, c'est vraiment difficile à dire. On a bossé certains morceaux peu avant l'arrivée en studio, modifié quelques passages, quelques arrangements. Ça évolue tout le temps jusqu'à temps que ce soit gravé sur le CD. Le processus de composition, je pense que c'est moitié du travail, c'est moitié du délai des 3 ans. Je pense, oui. Comme je te dis, il évolue tout le long jusqu'à ce que ça soit gravé sur le CD, quoi.
Et là aussi, ça va, la question va être un peu idiote, mais c'est pas grave, j'assume. Vous êtes dit, bon, ça y est, on a 9 titres, on s'arrête là, ou enfin, à quel moment on se dit, bon, on a de quoi faire un disque ? Qu'est-ce qui déclenche le truc de dire, ok, on book un studio, on...
On sent que le moment est venu, on sent qu'il faut graver le CD, on sent qu'il faut enregistrer. C'est instinctif, j'ai envie de te dire, c'est pas calculé. On se dit là, il est temps, là, l'album est prêt. Là, même s'il reste des détails à peaufiner, s'il reste des arrangements, on sait qu'on va être en mesure de les faire, d'avoir de nouvelles idées. On n'a pas un calendrier extrêmement strict là-dessus. On va à notre rythme, on s'y consacre pas longtemps. S'il faut, et voilà, ça vient comme ça vient, on part vraiment sur un truc instinctif, un truc, c'est nous, on fonctionne comme ça, et jusque là, ça nous réussit pas trop mal.
D'accord, donc il y a 9 titres qui apparaissent sur le disque, c'est les 9 que vous avez bossé, ou vous avez fait, je sais pas, 15 titres, et vous avez pris un choix, ou comment vous travaillez là-dessus ?
Non, on est plus plutôt du genre, comme tu dis, à composer 10 titres pour un album de 8 titres ou 10 titres pour un album de 10 titres.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, si tu veux, on n'est pas du genre à faire du remplissage. On préfère composer 8 morceaux qui en mettent dès le départ, dès le premier riff, à la poubelle et ne pas les continuer, se concentrer sur quelque chose qu'on est dès le départ satisfait. Et qui va plus tard former un morceau dont on va être fier.
D'accord, donc pour chaque album, vous n'avez pas 6 ou 7 titres que vous mettez de côté et qui verront potentiellement jamais le jour.
Non,
vous maximisez la créativité.
Donc voilà, on essaye. Du moins, on essaye. Après, je t'avoue qu'on a commencé, parce qu'on ne s'arrêtera jamais vraiment de composer. On n'est pas forcément extrêmement rapide, mais sur une composition, mais on ne s'arrête jamais vraiment de composer, donc des idées ont déjà fleuri pour un troisième album, donc pour l'instant on compose tranquillement, on se concentre sur la sortie de notre deuxième album, sur la tournée qui va suivre, et pour l'instant c'est plus important.
Ok. Pour donc là le nouvel opus de Thousand Faces of Lies, donc vous êtes allé sur un studio qui est à Clisson.
C'est ça.
Alors, donc deux petites questions. Alors, pourquoi avoir changé par rapport, comme on disait, le premier à Lyon? Et Clisson, c'est un hasard pur ou il y a un rapport
C'est si tu parles du MPS, non, c'est pas, c'est, il n'y a aucun rapport réel. C'est juste que le studio Makara, donc qu'on a choisi pour ce deuxième album. Et géré par HK, que je connaissais déjà un petit peu avant, et que donc on a décidé de bosser avec lui pour son travail qu'il avait fourni avant sur d'autres productions. Donc on a voulu changer. On est encore un jeune groupe qui expérimente beaucoup niveau son, qui cherche encore son définitif. Je sais même pas si on le trouvera un jour, c'est pas la question. On évolue et je pense que ça passe par le fait de tenter de nouvelles expériences avec de nouveaux studios plutôt que pour l'instant de répéter le même album à chaque fois, le même son d'album.
D'accord, parce que voilà, Clisson, Dijon, ça paraît pas le plus proche, enfin Lyon non plus, j'aime bien.
Comparé, c'est sûr que Lyon-Dijon, c'est plus facile que Lyon-Clisson, c'est clair.
D'accord. Autre élément important, enfin, de mon point de vue, c'est toujours le visuel, qui, quand même, qu'on veuille, c'est le premier contact souvent avec le public, à moins de tomber sur une vidéo YouTube, enfin, en tout cas, en bac, c'est le premier contact. Comme pour le premier disque, vous avez bossé avec Stan Decker. Alors, je suis assez surpris, parce que d'habitude, il suffit de voir son site, il fait des pochettes quand même beaucoup plus heroic fantasy et super colorées. Alors, vous, c'est un peu plus sombre et un peu plus extrême, entre guillemets. Comment vous êtes arrivé à bosser avec lui?
Tout simplement, il a quand même fourni, donc comme tu dis, c'est vrai qu'il a beaucoup bossé avec des groupes de heavy, de power metal et ainsi de suite, qui donc dans un univers très différent, mais dont on a apprécié également les productions, et du coup, il a aussi fait quelques productions plus extrêmes.
Oui, bien sûr, oui.
Donc,
rarement aussi sombre, hein. C'est un peu le jeu des nuances de gris, là. Hein.
Oui, c'est vrai. Et du coup, nous, on aimait son travail, mais on voulait lui proposer autre chose, de faire autre chose, de faire ce que nous, on avait en tête. Il a accepté. Ça, pour nous, d'après nous, ça a très, très bien marché sur Beat for Sin. Donc, on s'est dit, pourquoi pas retenter avec Stan, qui nous a fait un très bon boulot. On sait qu'il nous fera un bon boulot, et c'est ce qu'il a fait sur Season of Faces of Light.
Et alors Bill Forsyth, bon, on voit que c'est déjà un peu plus entre guillemets extrême, mais c'est quand même très coloré. Un des éléments clés pour vous, c'est que ça soit de sombre, enfin sur des voilà un truc très dans des nuances très marquées.
C'est pour coller, on va dire, avec la musique et avec les thèmes abordés dans les paroles. C'est une volonté propre.
D'accord.
Le côté son vient vraiment de la thématique principale qu'on abordait déjà sur Beat for Sin, qui n'est pas un concept album, hein, mais dont il y a une vraie trame commune à notre son et à ces albums qui je pense sont bien mis en image par les deux covers, quoi.
Ouais, ouais, d'accord, ok. Non, non, mais c'est. Et justement, pour arriver à ce résultat-là, qu'est-ce que vous lui avez fourni? C'était quoi votre cahier des charges?
C'était de reprendre déjà pour cet album, pour ce second album, c'était de reprendre le. On a eu cette idée de d'aller dans l'optique de reprendre ce personnage féminin donc qui est présent sur les pochettes des deux albums. Donc pour amener une continuité, amener justement une espèce d'emblème visuel de mascotte. Et du coup, c'était une de nos exigences au niveau visuel pour ce second album. Il y avait aussi le fait, comme je disais, de respecter l'univers, de respecter le titre de l'album qui on a essayé de vraiment représenter en image avec tous ces visages, tous ces reflets de ce personnage qui sont présents sur la cover.
D'accord, ok. Autre élément de visuel, donc vous avez sorti un clip pour justement le titre qu'on mentionnait précédemment, là, Useless Sacrifice.
Ouais.
L'espèce d'entrepôt là, un peu désaffecté, c'est où? Et en général, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'expérience d'enregistrement de ce clip?
Alors, je sais pas si je peux te donner le lieu exact.
Dans la région.
Mon spot.
Dans la région de, dans le coin de, c'est autour de Dijon, loin, c'est ça?
Non, ça se situe en Haute-Marne plus précisément.
D'accord.
À bien 130 km de Dijon, au nord, en Haute-Marne.
Bon, voilà, ceux qui voudront, ils tourneront à 130 km autour de Dijon et ils verront.
C'est aux alentours de Chaumont et ils peuvent chercher longtemps.
D'accord, écoute, ça fera partie. Vous lancerez un concours pour savoir qui a trouvé. Et donc en général sur déjà comment ça s'est passé et quel est en discutant avec les musiciens souvent il y a le côté le clip c'est sympa quand on voit le résultat, mais en attendant on s'est pelé pendant deux jours et on a fait 220 fois les mêmes choses et donc les mecs ils en peuvent plus au bout d'un moment.
Ouais, c'est un peu le principe.
D'accord.
C'est un peu le principe, mais bon, c'est le jeu, quoi. J'ai envie de te dire, c'est le jeu. Tu parlais vraiment de la création du clip.
Ouais, c'est-à-dire à la fois l'idée de, à quel point vous aviez posé les bases. On peut dire, c'est le groupe. On met le groupe dans une scène, naturelle, dans un lieu qui existe, et puis le groupe, se met en scène comme s'il jouait, par exemple, devant un public. Et donc après, il y a les caméras qui tournent autour. Quel était le truc. Là aussi, le projet de base.
Le projet de base, c'était vraiment, je te dis, d'arriver, comme je peux te le dire pour les artworks, de coller à la thématique générale, à l'ambiance générale qu'on a pu développer musicalement sur l'album, à savoir ce personnage féminin aussi dans le clip qui n'est pas sans rappeler du coup le personnage féminin de la pochette, qui nous observe, qui nous contrôle, qui est là, qui est tout. Qui est toujours omniprésente et on a essayé de rappeler un peu tout ça, de rappeler l'ambiance sombre par la vidéo, de rappeler l'ambiance sombre musicale qu'on a pu développer sur l'album, quoi.
D'accord. Et donc là aussi, ça reste a posteriori et plutôt un bon souvenir.
Ah oui, très très bon. C'était le premier clip pro qu'on a pu faire. C'est une très très bonne expérience. On a pris plaisir à le faire, mais c'était très fatigant, on va dire. Mais non, c'était une bonne expérience. On pense bien sûr réitérer la chose et proposer plus de vidéos à l'avenir de nos chansons.
D'accord. Si on parle un peu de la scène, donc là aussi, en vous suivant un peu Facebook, etc., ou dans différents documents, donc vous avez eu l'occasion déjà de partager la scène avec pas mal de groupes déjà qui ont un beau nom. Alors il y a beaucoup de Français, mais par exemple Mass ou d'autres, mais aussi de l'international.
Oui.
Napalm Death pour n'en citer qu'un. Est-ce que au contact de ces groupes-là qui ont donc sans doute plus d'expérience et puis aussi une aura un peu supérieure à la vôtre, vous avez appris, enfin il y a des choses qui ont pu vous permettre de construire après d'autres choses ou de voir ils font comme ça, c'est peut-être intéressant, faut qu'on y réfléchisse. Voilà, est-ce qu'il y a eu on apprend ce genre en contact de ce type d'artiste?
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour aussi le fait d'assurer une première partie, c'est on vise l'expérience, c'est outre le fait de donner un concert dans de très bonnes conditions et tout ça. Du coup, non, c'est vraiment bon à prendre. C'est on a effectivement donné une paire de concerts pour de très beaux noms. On espère que ça va continuer d'ailleurs. Donc ça permet aussi de jouer dans des conditions de bonnes conditions, c'est-à-dire au niveau scénique, au niveau du public qui va être nombreux sur ce genre de date. Donc non, c'est bon à prendre. C'est là qu'on apprend aussi beaucoup. C'est dans ce genre de conditions qu'on développe le côté scénique du groupe qui est super important. Quoi.
D'accord. Et est-ce qu'il y a un musicien ou un groupe qui t'a particulièrement impressionné?
Avec qui on a joué?
Ouais.
À titre personnel, Angelo Sapatlida.
Mm-hmm.
Dagoba pour le show auquel on a partagé la scène. Cisteria, bien sûr. Tous les groupes, la Palme Def, ce soit tous les autres groupes avec qui on a pu partager la scène et qui ont pu nous apporter leur expérience, leurs idées, leur vision des choses, quoi.
D'accord. Donc vous avez déjà annoncé pour tout début 2019, je crois de mémoire, entre janvier et mars, 6 ou 7 dates de concerts, donc bon, justement en soutien de ce nouvel album. Concert plutôt orienté est-nord-est, ce qui est normal vu votre origine pour commencer.
Ouais.
Qu'est-ce que vous attendez de ces concerts-là et qu'est-ce que le public peut en attendre de votre côté en mettre l'accent je pense que vous appuyez toujours sur le premier album aussi, en plus de celui-là. Est-ce que vous êtes déjà dans les répètes?
Oui, on a attaqué des dates, comme tu dis, on a aussi une paire de dates. On a attaqué dernièrement à Rennes au Mondo Bizarro.
Mmh.
Donc on avait déjà commencé à roder quelques titres de notre nouvel album sur scène avant l'apparition de celui-ci. Et du coup, on continue là-dessus, ça marche plutôt pas mal. On n'oublie pas qu'il y a Bulforcine dernière, qu'il y a toute cette période, qu'il y a beaucoup de live derrière, et beaucoup de live qui ont fait leur preuve, beaucoup de chansons qui ont fait leur preuve. Donc on va essayer de proposer un set compact, un set bien sûr orienté sur notre nouvel album, mais un set avant tout best-of de ce qu'on a pu faire jusque-là.
D'accord, ok, d'accord. Et puis bon, le temps passe, donc juste une dernière question. De votre expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire ou quelle est ta vision de la scène métal française vue de Dijon /Chaumont?
Une vision globale, c'est que je pense qu'en France on a une scène assez riche en matière de groupe dans tous les styles confondus de l'aspect métal, donc je pense que c'est qu'à encourager. Ça devient difficile aussi de sortir de la masse, étant donné que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de groupes sur le marché. Il y a des groupes qui s'en sortent bien, des groupes qui s'en sortent moins bien, la question n'est pas vraiment là, mais non, je pense qu'on a une scène assez riche. Alors je pense qu'on manque pas de qualité, on manque vraiment pas de qualité sur la scène de ce pays. Je pense que là où ça blesse plus, c'est la on va dire au niveau la facilité de se produire dans de bonnes conditions ou la difficulté d'enregistrer correctement, les coûts financiers, tout ça. Là par là, c'est difficile. Bon, je pense que c'est un phénomène actuel aussi, si on compare avant, où c'était plus difficile de faire écouter sa musique aux gens via Internet, qui n'était pas là. Et par contre, c'est à l'inverse, c'était beaucoup plus facile d'enregistrer dans les bonnes conditions. En fait, je pense pas que la qualité de la scène soit à remettre en cause, je pense plutôt que la qualité de production de sa musique est plus difficile à l'heure actuelle.
D'accord. Et le fait d'être donc un peu à l'est de la France, donc relativement, je suis conscient, relativement un peu plus proche de pays un peu plus métal comme Allemagne ou Suisse, ça peut aider ou ça change rien?
Ça change pas grand chose à mon avis si tu veux. Après peut-être que effectivement la scène de métal dans le Nord-Est est peut-être plus active que dans certaines autres régions de France, ça je le conçois, mais je pense pas qu'elle soit plus productive que celle à Paris, que celle à l'ouest de la France ou tout ça. Je pense qu'on développe ce qu'on peut développer de chaque côté de la France. Toutes les régions ont leur groupe de qualité, ont leurs associations qui se bougent, ont toutes les qualités requises. Je pense que c'est un phénomène plutôt national qui n'est pas facile de se produire dans les bonnes conditions en général partout pour des groupes émergents.
D'accord, ok. Et donc juste pour terminer, si t'avais, quel est ton album de l'année 2018 là qui se termine?
Ouais, dure question comme ça, tu vois, j'étais.
J'enlève le Johnny Hallyday hein, parce qu'il est évident, c'est hors catégorie.
D'accord, je l'ai pas cité, c'est pas grave.
Ah bah donc tout va bien alors.
Je l'ai pas écouté.
Ah bah tu fais bien. Enfin j'en sais rien, je dis ça, ça m'est égal, mais les fans tant mieux quoi.
Non, je te citerai volontiers, je sais pas si c'est, je vais pas t'en oublier, mais au passage, je te citerai bien le dernier album de Crysix, groupe de thrash espagnol, le dernier album de Angelus Apatrida, également groupe de thrash espagnol, le dernier de Last Christ, qui fait énormément plaisir à entendre, non, des albums comme ça, qui cette année m'ont vraiment beauté, Body Count, dernier Body Count, mais je pense que c'était plus l'année dernière.
Ouais, ça doit être limite, ouais.
Ouais, voilà, c'est l'année dernière, mais ouais, des albums comme ça, par-ci par-là, qui mettent des bonnes claques, quoi.
Bon,
il y en a encore régulièrement, quoi.
Bon, bah tant mieux, c'est essentiel. Merci en tout cas d'avoir pris le temps. Tous mes vœux pour la suite, et puis bah, on essaie de suivre l'actualité du groupe sur le Facebook.
Super, je te remercie.
À bientôt, ciao.
Salut, merci.